Entre vous et moi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour échanger avec les auteurs et pour parler de leurs ouvrages. Et après Johnny Hallyday, que vient de nous raconter Michel Leclerc, le photographe du livre Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour, eh bien nous revenons en studio avec mon invité Guillaume Schroll. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à nouveau dans les studios de RJL. En mai dernier, vous étiez venu nous présenter votre premier ouvrage publié voici quelques temps et intitulé « Deux secondes ». Et nous nous étions donné rendez-vous pour présenter en cette fin d'année radio à nos auditeurs les deux derniers livres édités, Le Pacte Noah et Lumière Noire. Alors, quelques mots pour vous présenter pour nos auditeurs. Vous êtes consultant en entreprise et spécialisé dans le sport, si j'ai bien compris.
Oui, oui, je fais pas mal de choses dans le sport, mais formation professionnelle, on va dire, pour tout le monde, puisque je suis sur la démarche qualité Calliope.
Ouais.
Et j'audite les entreprises de tout secteur. Et puis ensuite, je m'occupe du CQP Instructeur Fitness. Donc là, c'est une nouvelle certification dans le sport où effectivement, j'habilite des centres de formation au niveau national et je dois les suivre pour voir si tout se passe bien.
Ah oui,
donc
c'est passionnant comme travail.
C'est passionnant,
ça.
C'est
oui,
passionnant,
j'imagine.
Et c'est tout le prolongement de ma vie dans la formation et le sport. Donc c'est pas mal.
Alors on l'aura compris, vous êtes passionné de sport, notamment d'athlétisme. Hein, et on va y revenir avec votre héros. Et puis passionné de littérature également comme votre héros. Alors après le tsunami dans votre premier roman, vous continuez à vous intéresser au dérèglement climatique, à l'écologie, toutes ces questions qui préoccupent l'humanité, qui préoccupent grandement l'humanité depuis quelques décennies, mais quelques années plus particulièrement. Alors dans le Pacte Noah, donc le deuxième livre que vous nous proposez, c'est l'histoire de Quentin et Sarah qui n'auraient jamais dû se rencontrer d'ailleurs. Lui est un trader un peu caricatural, hein, très attiré par l'argent. Enfin, caricatural, peut-être pas tant que ça. Hein,
pas tant que ça, mais en tout cas, on l'aime pas trop quand on commence
voilà,
le livre.
Exactement. Et puis, on chemine à ses côtés et on découvre une personnalité beaucoup plus attachante et beaucoup plus intéressante que prévu au départ. Et Sarah, quant à elle, est conseillère du premier ministre socialiste, directrice de cabinet. Du premier ministre socialiste Manuel Valls. D'ailleurs, première petite question, c'est important pour vous d'ancrer vos personnages et votre histoire dans la réalité, parce qu'on côtoie François Hollande, Manuel Valls, toutes les personnalités politiques de ces années 2000.
2015, exactement. En fait, j'avais vraiment envie d'ancrer l'histoire dans la réalité, parce que en fait, c'est à mi-chemin entre la réalité et l'anticipation, ce roman.
Ouais.
Et le fait de commencer avec des vrais noms, des vrais événements, tous ces COP21, etc.
Oui.
Ça permet aussi d'ancrer dans la vraie vie et donc de donner des références qui sont les références de nos vies finalement.
Oui, oui, mais du coup vous nous faites peur parce que vous nous parlez d'anticipation, mais c'est pas de la science-fiction. Ce sont des phénomènes qui menacent l'humanité et qui peuvent peut-être, enfin on n'espère pas bien sûr, mais qui peuvent peut-être nous arriver sur le coin de la figure, non ?
C'est vrai que lorsque j'ai commencé à écrire ces deux romans, puisque c'est un roman qui se suit, hein, les
oui,
deux titres,
bien sûr, ouais.
Donc j'ai commencé en avril 2018
ouais,
à l'écrire,
ouais.
Et c'est vrai qu'à l'époque, la dimension électrique et les problématiques électriques n'étaient pas autant présentes qu'aujourd'hui.
C'est vrai.
Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont inquiétants, hein, sur notre planète et sur la manière dont on vit. Donc, quelque part, ce choc électrique, même si c'est de l'anticipation, aujourd'hui, on peut se dire, mais en fait, ça pourrait arriver.
Bien sûr. Et on parle de dérèglement climatique. Et dans le livre Le Pacte Noah, il est question de la grande extinction, ce que vous appelez l'extinction, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité. Le monde est plongé dans l'obscurité. Et il faut bien trouver des solutions pour en sortir. Alors, 7 chefs d'État ont décidé d'un pacte, un pacte Noah. Alors, ils ont décidé avant, hein, bien sûr, un pacte Noah. Expliquez-nous un petit peu pourquoi et comment ils ont imaginé ce pacte.
Bah, ça fait référence à plusieurs choses. Alors, il y a l'Arche de Noé, bien sûr, sur la sauvegarde de l'humanité, et que j'ai un peu traduite dans ce roman avec la sauvegarde d'une certaine humanité ou d'un certain monde. Et en fait, des dirigeants qui sont forcément ancrés dans le monde occidental que l'on connaît et qui se raccrochent énormément à ce monde qu'ils ont connu et qu'ils ne veulent pas voir se perdre.
Bien sûr.
Et donc ce G7, il est double. Il y a à la fois l'espoir de quelque chose après, mais il y a aussi cette critique de notre société et de nos dirigeants qui finalement vont se raccrocher à leur système et peut-être peut-être pas pour des bonnes raisons et peut-être pas avec les bonnes réponses.
Exactement. Alors, Sarah, notre héroïne, elle fait partie de cette aventure. Vous écrivez, page 25, il fut convenu que tous les acteurs autour de la table ce jour-là auraient leur place, donc le G7, hein, les sept chefs d'État, dans les villages du même nom, les villages Noa, quelle que soit leur situation. C'était le seul moyen d'éviter les fuites. Sarah venait donc d'apprendre qu'elle ferait partie de cette aventure surréaliste. Elle était prise au piège. On ne lui avait pas demandé son avis. Un sentiment de malaise grandissait en elle. D'un côté, l'idée de se savoir sauver si cette catastrophe survenait la rassurait. Mais de l'autre, elle ne put s'empêcher de penser à tous les gens qu'elle aimait. Et sans maîtriser le cours de ses réflexions, une image s'imposa à elle. Le visage de Quentin apparut. Parce que, effectivement, ce pacte Noa, elle devait absolument le taire et elle ne devait pas en parler à Quentin alors qu'ils se sont rencontrés et qu'a débuté une belle histoire d'amour entre eux.
Ça fait référence au secret d'État.
Bien sûr.
Alors, j'ai jamais été à l'intérieur de ces secrets d'État, donc je ne fais que les imaginer. Mais on lit des choses, on voit des documentaires, et donc on sait très bien que les secrets d'État existent. Donc, et je pense que cette situation, elle est plausible, que des personnes très haut placées se retrouvent finalement scellées par un secret. Et c'est aussi pour montrer dès le départ que pour Sarah, il y a une espèce d'ambivalence. Tout de suite, entre faire partie de ce grand monde et puis d'autres éléments.
Et l'histoire d'amour qui va unir Quentin et Sarah va être brusquement interrompue par la grande extinction. Et Sarah, à son corps défendant, va devoir taire cette histoire à Quentin et va devoir s'éloigner de lui. C'est un véritable, comment dirais-je,
c'est un crève-cœur.
Un crève-cœur pour elle, oui, un crève-cœur.
Oui, complètement. C'est quelque chose auquel elle va se préparer malgré elle. Elle sait que ça va arriver à un moment donné. Et à la fois, elle vit les instants présents, mais à la fois, elle sait que quelque chose d'autre l'attend.
Ouais. Et alors, il y a une citation que vous placez au début de la partie 2, signée René Barjavel, qui m'a fait froid dans le dos parce qu'elle date de 1972.
Même 1942, en fait.
1942
Oui. En fait, il y a eu une réédition en 1972,
mais
l'histoire elle-même, elle a été écrite en 1942.
Alors, je ne résiste pas vraiment à l'envie de la lire à nos auditeurs. Caprice de la nature, avertissement de Dieu, point d'interrogation. Nous vivons dans un univers que nous croyons immuable parce que nous l'avons toujours vu obéir aux mêmes lois. Mais rien n'empêche que tout puisse se mettre brusquement à changer, que le sucre devienne amer, le plomb léger et que la pierre s'envole au lieu de tomber quand la main la lâche. Nous ne sommes rien, mon jeune ami, nous ne savons rien. Là, on est face vraiment à la réalité, que finalement, oui, effectivement, comme le dit Barjavel, nous ne sommes rien et nous subissons finalement les foudres de la nature, peut-être à force de l'avoir trop provoquée aussi, cette nature malmenée.
C'est évident, et d'ailleurs, Barjavel avait écrit ce titre Ravage qui traite de la rupture de l'électricité, donc je ne suis pas novateur, il était bien plus visionnaire que moi, mais oui, effectivement, il y a tous ces aspects-là de prédiction et de à un moment donné on réalise pas bien parfois tout ce qu'on vit aujourd'hui au présent.
Oui, c'est très bien rendu d'ailleurs dans le livre parce que vous nous expliquez qu'en fait tout ce qui nous paraît naturel, vous voyez, on parle dans un micro là aujourd'hui, on a de l'électricité, on a la radio, tout ça nous paraît vraiment tellement évident qu'on n'imagine pas une seconde que tout cela puisse s'arrêter un jour. Et c'est vrai que c'est très troublant quand on vous lit. C'est assez troublant, oui, je dois dire.
Oui, et c'est vrai aussi pour notre frigo. C'est vrai, en fait.
Bien sûr.
On se rend compte qu'on est très vulnérable, en fait.
Ouais. Et cette grande extinction nous fait repartir à l'époque du Moyen-Âge. Vous citez d'ailleurs le Moyen-Âge à de très nombreuses reprises. Alors, on suit Quentin et Sarah. Quentin, on l'a dit, est passionné d'athlétisme. Ses velléités ses velléités d'athlète ont été interrompues par un accident de voiture. Et Quentin, il y a quelque chose de particulier chez lui, c'est que depuis son plus jeune âge, il avait une dizaine ou une douzaine d'années, il avait des visions de visages africains qui ne lui disaient rien. Il ne connaissait pas ces gens, mais il avait des visions. Comment vous expliquez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté ou d'où vous est venue cette idée ?
Alors, cette idée, elle me vient d'une histoire que m'a racontée mon ex-femme.
Ah.
qui a vécu une scène similaire. En se regardant un jour dans un miroir, des visages lui ont parlé dans des langues étrangères. Donc c'est incroyable. Un signe de l'au-delà, je ne sais pas, j'ai pas réellement l'explication, elle non plus. Mais quand j'ai cherché quelque chose qui était en lien avec l'Afrique pour mon personnage, oui. et que j'étais intéressé par le côté surnaturel aussi, m'est venue l'idée qu'il aurait eu aussi cette vision qui l'interpellait, qui l'interrogeait, et qui donne tout de suite aussi à ce roman, on sait que si ces visages sont là, si ces Africains sont là, il y a une raison, c'est on la connaît rien. Pas. Et ça donne aussi envie, certainement, ça fait partie des éléments qui donnent envie de tourner les pages.
Ouais, absolument. Oui, absolument, je vous le confirme. Ce sont des livres, aussi bien Le Pacte Noah que Lumière Noire, sont des livres, c'est des page-turners. Hein. On les lit vraiment, on a hâte de découvrir la suite. En même temps, on n'a pas tellement envie de se séparer de ces héros qui sont particulièrement attachants. Quentin est un jeune homme, alors on l'a dit, presque caricatural au début, parce que c'est un trader passionné de bourse, passionné de tout ce qui fait la saveur de sa vie, finalement. Il a un train de vie absolument incroyable. Sarah est à l'opposé. Alors, elle est militante socialiste, directrice de cabinet du Premier ministre socialiste. D'ailleurs, vous évoquez très souvent la vie politique française. C'est intéressant aussi de se replonger dans ces années-là. Hein.
Oui, parce qu'il y avait tout un contexte. Alors, c'est pas forcément, d'ailleurs, ma couleur politique, si je suis... pas forcément d'un parti, mais ayant été élu et plutôt dans une équipe de droite, j'ai traité quand même un personnage qui était avec un fort engagement sur ce parti socialiste, l'écologie, etc. Et avec qui je partage quand même un certain nombre d'idées, parce que je pense qu'on ne peut pas réduire la pensée à la droite ou à la gauche. Et c'est vrai qu'on s'immerge dans cette partie-là avec un François Hollande qui n'est pas forcément toujours très aimé. Et pour autant qu'il y a du charisme.
Oui, vous le réhabilitez en quelque sorte dans ce livre.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie humanité, en fait. Et au-delà de certaines choses qui ont été un peu marquantes dans sa fonction, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui avait son charisme.
Oui, et puis une vraie conscience politique. Et c'est vrai qu'il a souvent été réduit à cette caricature qu'on nous présentait souvent. Et c'est en cela aussi que ce livre est intéressant, parce que vous nous faites une plongée dans la vie politique française de ces années 2015. Donc le livre se déroule entre 2015 et 2030. On voit comment ça va évoluer autour de ce pacte Noah qui est un secret absolu, dont Quentin ignore tout. Et ce qui est amusant aussi, c'est la rencontre entre ces deux personnages que rien ne destinait à se rencontrer, et encore moins à vivre une histoire d'amour. Sarah, donc, elle a un prénom fortement marqué, elle est issue d'une famille juive, et elle a été sélectionnée pour rejoindre le village Noah grâce à ses qualités. Elle est très investie dans sa carrière, dans son engagement politique aussi.
Oui, elle s'est engagée militante. Toute jeune à la mairie d'Evry, aux côtés de Manuel Valls à l'époque où il était dans des mandats locaux. Donc il y a toute une histoire effectivement entre eux, d'amitié politique, de lutte, de campagne, etc. Et qu'elle suit en fait cet homme avec sa réussite. Donc ça m'a plu aussi, d'aller chercher des éléments réels de la vie de Manuel Valls, par exemple.
Oui. Vous lui avez envoyé votre livre, non ?
Non, je lui avais écrit un email pour lui demander si ça le gênait que je le cite, mais je n'ai pas eu de réponse.
Vous n'avez pas eu de réponse ? Oh, je pense qu'il a dû être cité dans pas mal de livres ces dernières années. Et en tout cas, vous en dressez un portrait plutôt flatteur.
Oui, en tout cas, je n'ai pas du tout cherché à rentrer dans une moindre polémique. J'étais pas là-dedans. En fait.
Alors, le déclenchement du plan Noah va être effectif à partir du moment où l'extinction se fait dans le monde entier. Et alors, ce qui est aussi très intéressant dans ce livre, Guillaume Schroll, c'est que vous expliquez bien que le monde capitaliste, occidental, enfin notre monde, le monde dans lequel on évolue tous les uns et les autres, est particulièrement frappé par cette grande extinction. Alors que l'Afrique, notamment, pour parler de l'Afrique qui nous occupe dans ce livre, l'Afrique finalement ne voit pas son mode de vie changer fondamentalement suite à cette extinction. C'est là aussi ce paradoxe qui est intéressant.
Oui, en tout cas, à l'échelle d'un village dans lequel Quentin a pu faire un voyage humanitaire.
Oui.
Et effectivement, alors ça c'est du vécu, hein, puisque j'ai effectivement aidé ce
oui.
village.
Oui.
Mais lorsque j'ai posé le pied à Niangono, au Mali, que j'ai vu les conditions dans lesquelles ils étaient, ce roman est né.
Oui.
Parce que, effectivement, j'avais déjà l'idée de cette rupture d'électricité, de comment ça se produirait dans le monde. J'étais toujours interrogé par cela. Et donc, on avait à Niangono cette perception que finalement, sans électricité, ça ne changeait rien.
Pas grand-chose, finalement, oui. Ah, oui. Ils avaient l'habitude de vivre dans ces conditions.
Ouais.
Le grand choc, c'est plutôt pour le monde occidental. Alors, Quentin va aller au bout de ce voyage. Il va aller... Alors, c'est difficile d'en parler parce qu'on ne peut pas tout
après,
dévoiler.
Oui, après, on va sur le deuxième.
Sur le deuxième, livre
temps,
Lumière Noire.
Oui.
Et on suit Quentin qui va se rendre à Niangono, donc une ville que vous avez vous-même connue.
Un village, effectivement,
dans
lequel j'ai pu me rendre à trois reprises.
Oui.
Malheureusement, avec le terrorisme en Afrique de l'Ouest,
oui.
on ne peut plus aller dans ces pays depuis 2011, donc ça commence à faire un petit peu de temps.
Oui.
Et on a arrêté notre action associative aussi, parce que sans pouvoir aller vérifier sur place, etc.,
sûr,
c'était
oui.
pas possible de continuer. Mais en tout cas, c'est un endroit que j'ai aimé. Et donc c'est devenu une scène pour mon roman.
Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de points communs entre Quentin et vous-même. Cet amour de l'Afrique, cet amour du sport, cet amour de la littérature. Quentin écrit, va commencer à écrire tout ce qui lui arrive. Quentin, lorsqu'il arrive à Niangono, est appelé un Toubab. C'est le nom que
blancs,
donnent les Africains
blancs,
aux Blancs.
C'est les Toubab en Afrique de l'Ouest.
Et Sarah, quant à elle, alors je ne sais pas si on peut le dire, elle va décider de
après,
quitter le village.
Disons qu'il y a un moment donné où effectivement Sarah va se lasser
voilà.
de ce pacte Noah et de tout ce qui s'y passe. Et tout ce qui s'y passe pas. Et donc effectivement, il y a un moment donné où les deux personnes qui s'aiment vont... En tout cas, Sarah va partir en quête.
Oui. C'est ça. Bah, chacun a une quête
oui.
finalement, et sur leur chemin, ils vont rencontrer des personnages, des personnes qui vont jouer tous plus ou moins un rôle dans leur vie et les aider à continuer le chemin finalement. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup de résilience encore dans ces
c'est
deux
vrai,
livres,
c'est vrai.
Comme dans le premier.
Oui,
hein.
C'est vrai, je m'en suis rendu compte qu'après
oui.
l'avoir écrit.
Ah oui.
Parce que il y a des parallèles finalement entre les romans et j'ai pas du tout cherché ces parallèles à la base, donc c'est qu'il y a une part d'inconscient. Mais oui, il y a une quête. Chaque personnage va avoir sa quête et une quête qui est à la fois un peu spirituelle, mais une quête de sens.
Oui.
C'est-à-dire
oui.
avec des événements contraires, avec la perte d'être
oui.
cher,
oui.
avec des choses comme
avec
ça.
Avec des drames, bien sûr.
On est dans une quête de sens. Et donc, redonner du sens à la vie ou croire encore que l'on peut espérer
jusqu'au bout
de belles choses.
Oui.
Ça fait partie de ce roman.
On évoquait votre premier livre de seconde avec ce tsunami qui a balayé tant de vie. Vous faites le lien aussi. Alors, je ne sais plus si c'est dans le pacte Noah ou dans Lumière Noire. Je ne me souviens pas. Je crois que c'est dans Lumière Noire que vous faites le lien avec le tsunami et avec le récit que le héros Julien avait fait.
Alors, c'est dans le pacte Noah.
C'est dans le pacte Noah.
Oui,
hein.
Parce que...
Je les ai lus tous les deux à la suite. Alors
j'ai fait un petit clin d'œil
oui.
Pour finalement donner une fin à deux secondes.
Ouais.
Donc, je me suis amusé à cela avec le pacte Noah où il y a un chapitre, effectivement, où Quentin se rend au salon du livre.
Voilà,
et va rencontrer
l'auteur du livre qui retrace le tsunami.
Voilà, exactement.
Voilà. Le héros, Julien,
oui.
a, comme Quentin,
voilà.
des velléités d'écriture
voilà.
et il a raconté le drame qu'il a éloigné, qu'il a vécu et qu'il a éloigné de la femme de sa vie. Et c'est amusant d'ailleurs le lien que vous faites entre les trois livres. Il y a une certaine continuité.
Oui, j'ai souhaité ça, effectivement. Et c'est presque un jeu en tant qu'écrivain,
écrivain, bien sûr,
de faire des clins d'œil aussi à ses lecteurs.
Et je me suis demandé, Guillaume, si véritablement, à travers ces trois livres, vous aviez une vision plutôt pessimiste de l'avenir. Vous êtes inquiet? Est-ce que les préoccupations, les questions environnementales, écologiques qui nous préoccupent tous, est-ce qu'elles vous préoccupent particulièrement, vous, pour avoir écrit ces trois livres sur ce même thème, finalement, mm-hmm. avec un fil conducteur sur ce thème?
Oui, elle me questionne énormément, mais je pense malheureusement comme beaucoup de monde aujourd'hui, et j'ai des enfants qui sont en train de grandir dans ce monde, et j'en parlais avec mon fils aîné pas plus tard qu'hier en marchant, sur tout ce qui se passe et où est-ce qu'on va, les signaux que nous envoie la planète aujourd'hui. Ouais. La Covid a été un de ces signaux. Y a des éléments en fait qui sont inquiétants.
Bien sûr, incontestablement.
Et le réchauffement, on peut plus le renier. Enfin, il y a plein de facteurs. Donc oui, j'ai des craintes. Ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien la vie que je mène, parce qu'on peut pas non plus tout le temps être dans le noir. Mais on a quand même à se questionner, à faire des choses. Maintenant, ce que j'amène dans ce roman, ou l'idée, on va dire sous-jacente, c'est que j'ai bien l'impression qu'on ne maîtrise plus ce qui nous arrive et que c'est la planète qui va se rebeller. Ouais. On a beau essayer de réduire un peu notre empreinte carbone, etc. On voit bien que pour l'instant, on n'y parvient pas.
On dit bien que chacun à son niveau peut faire quelque chose, mais est-ce que c'est petit
suffisant.
Quelque chose,
est-ce
que ce sera suffisant? Voilà, c'est la grande question. Alors je vous demandais si c'était une vision pessimiste de notre avenir que vous aviez. Moi, je veux rester sur une note d'espoir. Et votre livre Lumière Noire, d'ailleurs, le titre, c'est un peu un oxymore, Lumière Noire.
Hein, oui. Hein,
c'est
exactement.
Deux mots en opposition.
Oui,
hein.
Et plusieurs significations, parce qu'il y a à la fois le fait qu'il n'y ait plus d'électricité.
Ben voilà, bien
Lumière
sûr.
Noire est au pluriel.
Ouais.
Et c'est la et les lumières noires, moi j'ai eu beaucoup de lumière en Afrique.
Oui, absolument. Oui.
Et
oui.
C'est porteur d'espoir aussi.
Exactement. Et cet oxymore que vous avez choisi pour le titre du dernier livre, donc Lumière noire, rend bien compte de l'alternance entre la lumière et l'obscurité, entre l'espoir et le désespoir. Alors, entre le désespoir et l'espoir, parce qu'on va finir sur une note d'espoir. Et justement, pour prolonger cette note d'espoir, est-ce que vous avez des idées déjà pour un quatrième livre?
Oui, j'ai commencé à travailler sur un quatrième livre. Oui. Donc, la prochaine une fois qu'on se reverra, ça sera dans un peu longtemps, parce qu'il faudra quelques années.
Ah,
oui.
Ah, d'accord.
Je pense qu'il faudra quelques années.
Ah, carrément.
Parce que
oui.
J'écris pas à plein temps et
oui,
que je me laisse
sûr.
Aussi la chance d'écrire quand l'inspiration est là.
Ouais.
Et j'ai un projet d'écriture sur une histoire transgénérationnelle et qui va nous permettre de voyager au Moyen-Âge pendant la guerre des religions entre catholiques et protestants.
Ouais. Ah, on change complètement de sujet.
Oui, là, pour le coup, on change de sujet et on a deux personnages féminins de notre époque qui vont se rendre compte qu'elles ont toutes les deux une tache de naissance au même endroit, que toutes les deux ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles vont chercher à savoir pourquoi et vont être dans une quête, elles, du passé, avec une chamane qui va leur révéler des choses. Et une malédiction qui date du Moyen-Âge et des guerres de religion.
Oh là là, oui, mais c'est un projet, mais qui est déjà bien, bien ancré dans votre esprit, là, j'ai l'impression.
Oui, maintenant, il faut l'écrire.
Après, il faut l'écrire, c'est ça. Alors, l'écrire, je voudrais, pour terminer, Guillaume, si vous le permettez, vous citer un passage, moi, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, on a véritablement un écrivain. On parle de Sarah. Ses pensées désordonnées l'emmenaient vers les méandres de son cerveau, inexplorées ou tout du moins enfouies très profondément. Elle ressurgissait par séquences, telles des fresques éphémères et insaisissables, subsistance de son existence. Non, on parle de Quentin, pardon. Alors qu'il les croyait évanouies pour toujours, comme des sauterelles dans l'herbe sèche de l'été, elles bondissaient dans tous les sens, franchissant des montagnes de mémoire, effleurant les rivières du souvenir, enjambant les forêts dont chaque arbre était témoin d'une histoire, survolant la banquise qui, en fondant, délivrait des milliers de petites particules de réminiscences affolées par leur soudaine libération. Ses pensées lui offraient, dans un élan de piété, un abrégé de la grande encyclopédie de la vie, comme autant de pages familières feuilletées au hasard. Il n'en avait plus le contrôle. J'ai trouvé ce passage absolument magnifique et j'avais envie de le partager avec nos auditeurs. Et vraiment, c'est beau, hein, Jérôme applaudit. Oui, tout à fait, vous pouvez c'est applaudir, gentil. Mon cher Jérôme. Parce que là, il y a vraiment la patte de l'écrivain. Et je suis contente, alors, du coup, que vous ayez un projet pour un quatrième livre après cette trilogie qui m'a permis de vous rencontrer, grâce à Jérôme, que je remercie d'ailleurs. Et vous avez déjà une idée du titre, non ?
Du prochain livre ? J'ai quelques idées. Ça pourrait être au-dessus d'elle, au pluriel, elle.
Oui, oui, puisqu'il y a deux héroïnes. Bon, bah écoutez, alors rendez-vous je ne sais pas quand, oui. Guillaume. En tout cas, très bientôt. Bon courage pour l'écriture, parce que c'est du travail.
Oui.
Hein. Et je rappelle que vous êtes publié en auto-édition, donc c'est d'autant plus méritoire de votre part.
Qui sait, le quatrième peut-être.
Ah, peut-être. Peut-être on va lancer un appel aux éditeurs qui peut-être nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir rencontré et d'avoir découvert votre talent d'écriture. Et puis ces histoires qui nous emmènent à la fois loin et très près de notre vie quotidienne. Elles nous interrogent, elles nous questionnent et elles nous font réfléchir.
Hein. Ah, merci, c'était le but.
Voilà, c'est aussi l'objectif de l'écrivain. Merci beaucoup Guillaume. À très bientôt. Je rappelle le titre de vos deux derniers livres après deux secondes. C'est donc Le Pacte Noah et Lumière Noire au pluriel, et c'est signé Guillaume Schroll. À très bientôt.
Merci.
Guillaume. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière émission de cette saison, et mon premier invité sera Stéphane Nivet, qui vient de publier un très beau livre aux éditions du Progrès consacré à Jean Moulin. Merci à tous de votre fidélité, à la semaine prochaine, au revoir.